Mardi 27 septembre 2011, il est 17h30 précisément. Bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous tout au long de l'émission, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Aujourd'hui, comme à l'habitude, grosse émission. On a une heure très rythmée, très chargée. Notamment, on rencontre Fanny Hennon-Lévy pour discuter de son exposition Au bout du fil, une exposition, disons-le, un peu interactive qui aura lieu au Cercle. On discute aussi avec Catherine Boivin, une nouvelle chroniqueuse à l'émission, qui nous fera une chronique aujourd'hui sur l'art, le web et l'interactivité. Donc, ça risque d'être fort intéressant. On discute également avec Michel Guimond de la galerie du même nom autour de l'exposition Marcel Ferron, qui est présentée jusqu'au 16 octobre. On rencontre aussi Raymond Poirier pour la revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Mais ça va bien. Ça va bien, mais ça va moins bien pour les musées montréalais. Ils appellent à l'aide. On en parle tout à l'heure.
Excellent. Normalement, on discute avec Simon Roy autour de la sélection audio pour cette semaine, mais Simon s'est vu vraiment contraint de devoir abandonner sa chronique pour la semaine. On a la chance quand même qu'il nous ait fait une petite sélection. Aujourd'hui, on va écouter l'album Électroacoustique Mexico 1960 à 2007. C'est une compilation de musique électroacoustique mexicaine. Le titre le dit de manière fort éloquente. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, la chronique que Simon nous a concocté sera disponible sur le site internet de l'aérospatiale dans la section commentaires. Donc, il fera ça dès que possible. L'adresse est la suivante, l'aérospatiale.wordpress.com. Donc, vous êtes bienvenue pour écouter les podcasts d'émissions, lire les communiqués, donc toutes les choses qu'on publie régulièrement sur le site internet. Pour l'instant, on fait une petite pause audio. On écoute Rogelio Sosa avec Maquinaria del Ancia sur les ondes de CKRL. Toujours sur les ondes de CKRL, à l'émission L'Aérospatiale, c'était Rogelio Sosa avec Maquinaria del Ancia, mais on est au Mexique, mais là on se tourne du côté du Québec avec la revue de presse de Raymond Poirier.
Oui, et plus spécifiquement du côté de Montréal cette semaine. Double incursion pour commencer notre revue de presse. Premièrement, les musées montréalais appellent à l'aide. En fait, c'est une sortie toute récente de la Société des directeurs des musées montréalais qui ont lancé un cri d'alarme en fait pour dénoncer le sous-financement de ses membres et demandent au ministère de la culture d'augmenter ses subventions au fonctionnement de 8 millions de dollars par année pour stabiliser la situation financière des musées montréalais. Il faut dire que les musées là-bas vont pas très bien selon une espèce de sondage que la société a réalisé. On parle notamment à court terme de suppression d'emplois. On parle de révision de la programmation, de révision des programmes éducatifs, de révision également des heures d'ouverture, des activités de diffusion. Donc, de manière générale, il y a plusieurs des musées montréalais qui comptent revoir l'ensemble à la baisse. Dans certains cas, on parle de compression de 35 % du personnel. Dans le cas d'un autre musée, on parle carrément d'ouvrir seulement 6 mois par année pour pallier justement au manque financier.
J'imagine que ce n'est pas le musée des Beaux-Arts ou le musée d'art contemporain. Là, j'imagine que c'est les musées de plus...
Les plus petits musées, en fait. Malgré que le musée des Beaux-Arts a été mentionné aussi, le Château du Frêne, c'est celui qui réfléchit à ouvrir seulement 6 mois par année. Mais sinon, les musées les plus menacés, le musée des Beaux-Arts est mentionné, le musée McCurd, le Centre des sciences de Montréal, d'autres musées peut-être un peu plus petits, donc le Château Ramsay, le musée des maîtres artisans du Saint-Laurent, le musée de la Chine, le musée Red Pat, le musée Pointe-à-Caillère, qui est aussi un très gros joueur. Donc, oui, ça touche les petits musées, mais ça semble toucher également les grosses institutions. Alors, on le dit, mais regardez, il nous faut 8 millions de plus pour qu'il n'y ait pas de diminution de l'offre de services. Donc, ça, c'est la demande de la Société des musées montréalais, des directeurs de musées. Ce qui est drôle, c'est que parallèlement, on en a parlé un peu la semaine dernière, Musée des Beaux-Arts de Montréal qui s'était rajouté une salle éducative, un gros programme éducatif, et il reste que malgré une situation financière qui est peut-être difficile, ils renouvellent complètement leur offre de services, en fait. Il y a donc ajout d'un pavillon qui a été finalisé, donc 20 % de plus, on en avait parlé un peu l'année dernière, et donc la directrice générale et conservatrice en chef du musée, Nathalie Bundel, a décidé de profiter de cette occasion-là pour reviser du tout au tout l'organisation même du musée. Elle dit que jamais un tel bouleversement n'a été opéré dans l'histoire du musée des Beaux-Arts de Montréal, donc quand même. Ils ont fait une visite à la presse cette semaine et justement, ça permet de voir un peu qu'est-ce qui a été refait, qu'est-ce qui a été réorganisé. Et de manière générale, en fait, on met de l'avant beaucoup plus une visite donc par période en redéfinissant un peu les divisions qu'on faisait de l'histoire de l'art. Par exemple, le niveau 1 présente la production artistique des années 20, des années 30, groupe des 7 notamment. Le refus global, le prisme Dieu aussi, se trouve au niveau S1 avec les Bordeaux appelant le duc Sullivan, Joran, Barbeau et les autres. Il y a un nouveau pavillon aussi avec quelques installations un peu plus contemporaines. Il y a donc vraiment une nouvelle division qui a été effectuée avec aussi de l'art médiéval, de l'art catalan, de la Renaissance germanique italienne qui ont été regroupées dans d'autres zones. Alors, division assez intéressante. Dans certaines salles aussi, on a même intégré de la musique, en fait, notamment avec du Chopin dans les salles qui sont consacrées au romantisme, donc pour essayer de créer un pont entre... Oui, l'histoire visuelle, mais également l'histoire musicale, parce que veux pas, je pense qu'on le sait. En fait, il y a quand même des ponts assez fermes là, entre une discipline et une autre.
De toute façon, il y a certains courants comme le romantisme, justement, qui intègrent les arts, la littérature, la musique. Est-ce que tu sais vraiment si ils vont mettre un peu plus en valeur leur collection permanente?
Notamment, en fait, c'est l'un des objectifs de cette réorganisation-là, justement, de mieux diviser le parcours et mieux mettre en valeur aussi les collections qui jonchent justement ce parcours.
Parce qu'il y avait eu un reproche, quoi, l'an dernier à cet égard.
Et ce serait intéressant de voir, en fait, comment le public va recevoir tout ça. Je mettrai sur le blog, en fait, il y a un bel article dans le Soleil, dans la presse, pardon, qui a été publié, un bel article également dans le Devoir. Alors, surveillez l'aérospatiale.wordpress.com pour retrouver les articles dont il est question. Et Julie, ça va plus ou moins bien à Montréal, côté finances des musées, ça va plus ou moins bien ailleurs aussi. On n'est pas unique dans ce phénomène. Et notamment, il y a un musée à New York, le American Folk Art Museum, qui était sur le point de fermer. Et ils ont obtenu un sursis inespéré en cours de semaine dernière. Des dons qui sont rentrés de manière complètement imprévue. Et donc, ce qui fait que plutôt que fermer cette semaine, ils ont décidé de réouvrir pour quelques mois additionnels. On ne sait pas exactement le montant des fonds qui ont été injectés dans cette affaire-là. Le musée refuse de communiquer cette information-là, mais pour le moment, donc, il y a possibilité d'ouvrir là, pour un peu plus longtemps et peut-être éventuellement de sauver littéralement ce musée qui est quand même assez important là, aux États-Unis.
À tout le moins, à titre préventif, si vous allez à New York dans les prochains mois et que vous aviez peut-être l'idée un jour d'y aller, dépêchez-vous parce qu'on ne connaît pas l'avenir du musée, malheureusement.
On n'a pas notre boule de cristal.
Non.
On revient au Québec. Il y a eu un communiqué qui a été émis par le regroupement des artistes en arts visuels du Québec, le RAV, qui a décidé de se dissocier d'une action d'un artiste en art visuel, l'un de ses membres, en fait, du RAV, donc M. Kupriakov, qui avait décidé le 21 septembre dernier de démarrer une grève de la faim symbolique. Enfin, il menaçait de démarrer cette grève de la faim symbolique s'il n'y avait pas des changements qui étaient réalisés à l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture dans la loi du 1%. Ouais. Et donc, le regroupement des arts visuels a rapidement émis un communiqué pour dire qu'elle se dissociait de cette initiative de cet artiste-là, en disant, ben nous, on continue de collaborer pour l'instant avec le ministère de la Culture pour bonifier cette loi-là, en espérant justement faire intégrer de modifications face aux éléments jugés peut-être un petit peu plus litigieux. Alors, ce serait intéressant de suivre le dossier. Ce serait intéressant de voir si l'artiste décidera d'aller de l'avant malgré tout là, avec cette grève de la faim.
Avec, quand même une pratique assez intense, une grève de la faim.
Et en terminant, en fait, c'est Radio-Canada qui nous rapportait ça, en fait, semaine dernière, en fait, il y a certaines personnes qui se permettent davantage qu'un simple coup d'œil aux œuvres d'art qui décorent les édifices gouvernementaux. En fait, ils ont fait un petit bilan et ils se sont rendus compte que depuis 1972, il y avait pratiquement plus de 200 œuvres qui avaient été volées des organismes fédéraux, du côté des gestionnaires, donc de la Banque d'art fédérale, la Banque d'œuvres d'art. Ils disent c'est quand même pas si mal considérant qu'on a 250 000 œuvres qui ont été louées dans différents édifices gouvernementaux, donc qu'il y en ait seulement 200 qui ont été volées sur 40 ans. C'est trois fois rien, on s'en formalisera pas.
Mais non, c'est juste 50 par année, une par semaine, il y a bien là.
Finalement. Donc on parle... aussi d'une centaine d'œuvres d'art qui ont été endommagées, sans espoir d'être restaurées. Donc, globalement, on a perdu 300 œuvres depuis 1972. Quelques exemples, notamment une tapisserie de l'artiste canadienne Anne Newdigate, Creatures of Habit. Personne ne sait combien d'œuvres a rapporté lors de l'encan, parce qu'en fait, on retraduit ce phénomène-là parce que cette œuvre-là, subitement, s'était retrouvée à l'encan. Et là, les gens disent « Ouais, mais elle n'est pas censée être dans nos collections ». Donc, on voit un peu la situation. Alors, est-ce qu'on devrait s'en inquiéter un peu plus? C'est peut-être la question qu'on peut se demander. Donc, on parle de 200, 300 œuvres volées ou endommagées en une quarantaine d'années. Dans cette collection qui est quand même importante aussi pour encourager et favoriser le développement de l'art contemporain sur certaines époques là, au pays et diffuser aussi à l'intérieur des édifices gouvernementaux, bien entendu.
Bien, surtout, inquiétons-nous de l'attitude du gouvernement qui a l'air de dire que c'est des peanuts.
Bon, 300,
c'est ça, c'est pas très grave. Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On se revoit la semaine prochaine.
Sans faute.
On s'en va en pause audio. On écoute Gabriela Ortiz avec 5 micro-études. Au retour, on discute avec Michel Guimond. Voilà, on vient d'entendre un extrait de l'album Electro Acoustique Mexico, donc d'une compilation de musique J'ai l'impression de me répéter, électroacoustique mexicaine, 1960 à 2007. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'oubliez pas que Simon Roy va publier un billet sur le blog de l'émission l'aérospatiale.wordpress.com. Et là, on se transpose, en fait, du Mexique. On revient encore au Québec, plus précisément à Québec. On rencontre Michel Guimond, directeur de la galerie Michel Guimond, qui présente depuis la semaine dernière, depuis cette fin de semaine, l'exposition Marcel Ferron. Bonjour.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Très bien, merci.
Et bon, vous avez décidé de faire une exposition sur Marcel Ferron. Qu'est-ce qui a motivé, en fait, cette volonté-là?
Bien, la première raison, c'est que j'apprécie beaucoup l'œuvre de Marcel Ferron. Pour moi, c'est une œuvre qui me touche énormément. Et puis, j'avais une occasion aussi unique de présenter cette exposition-là qui comportait des œuvres qui n'avaient jamais été vues, d'une part, et puis un côté de la production de Marcel Ferron qui était moins connu, soit les œuvres sur papier. Alors, c'est pour ça que j'ai accepté. J'avais déjà présenté une exposition de Ferron dans les années 80, vers 82-83, alors c'est un retour vers une artiste que j'aime beaucoup.
D'ailleurs, ça fait longtemps, je pense, hein, qu'il y avait eu une rétrospective où on avait présenté les œuvres
ben, ça fait peut-être une dizaine d'années, je crois, à Québec. Alors, c'était une belle occasion.
Oui.
Autrement, en 2000, il y a eu une rétrospective, mais au Musée d'art contemporain à Montréal.
Oui, donc pas ici à Québec
non,
directement. D'ailleurs, l'exposition, c'est pas à proprement parler une rétrospective, malgré le fait qu'on couvre quand même une grande période de temps.
C'est pas du tout une rétrospective. Même si on présente des œuvres qui s'échelonnent des années 50 aux années 90, c'est pas une rétrospective au sens où on aurait voulu présenter des œuvres de chaque époque ou des œuvres de différentes factures, mais qui représenteraient Marcel Ferron dans toutes les tendances. On a plutôt présenté une exposition d'œuvres qui nous intéressaient. C'est un choix que j'ai fait parmi des œuvres qui m'étaient présentées. Et aussi de l'accrochage, et pas un accrochage chronologique comme on retrouve dans un musée. C'est un accrochage qui est plus soit de correspondance entre les œuvres ou encore un accrochage d'émotion qu'on peut avoir vis-à-vis des œuvres qu'on présentait.
Donc, j'imagine que ça, ben j'imagine, non, je l'imagine pas, je l'ai constaté, ça permet vraiment de faire dialoguer les œuvres entre elles, mais aussi les différentes époques.
Oui, ça crée une situation où, effectivement, les œuvres vont dialoguer entre elles, soit au niveau de la forme, au niveau de la couleur, du mouvement. On peut avoir des œuvres de 1960, une œuvre de 1960 qui côtoie une œuvre de 1980, mais il y a un dialogue. On reconnaît toujours Ferron. Même si la façon de peindre a pu évoluer ou changer dans le temps, même si le langage est un peu différent, même si les signes sont différents.
Mais oui, c'est vrai, parce qu'on sent qu'il y a quand même une continuité. Hein, vous en parliez avant. Je recommence, vous en avez déjà parlé, la transparence, la lumière,
le geste
chez Marcel Ferron. Mais on sent quand même que tout au long de sa vie, elle est quand même restée assez fidèle au principe de l'automatisme. Ça l'a vraiment suivi, puis ça a évolué avec elle aussi.
Bien, il y a deux choses. Marcel Ferron, oui, elle est restée fidèle au principe de l'automatisme, au sens où c'est une œuvre qui n'est pas préméditée, mais qui est faite au fur et à mesure, et puis qui s'appuie sur l'émotion qu'elle a, puis au niveau de la construction puis des couleurs. Par contre, il y a des choses qui sont caractéristiques de l'œuvre de Ferron qu'on retrouve de façon très claire dans l'exposition, qui est le geste, la force, l'énergie du geste, la transparence, la lumière, aussi beaucoup la lumière. Lumière qui s'est accentuée ou qui a été traitée différemment suite à la période où elle a travaillé les vitraux de 1966 à 1973. Et puis, lorsqu'elle revient à la peinture, parce que durant cette période-là, elle n'a pas fait de peinture.
Elle se consacrait vraiment à l'art public.
Elle se consacrait à l'art public. C'est là qu'elle a fait sa production en vitrail.
D'ailleurs, ce qui est surprenant aussi, vous l'avez dit à la visite de presse, c'est à quel point les caractéristiques de l'art de Marcel Ferron, qu'on voit habituellement dans le grand format, réussissent à se transposer très, très bien dans le dessin.
Oui.
Le vocabulaire est exactement le même. On sent la même liberté, en fait, dans le geste.
Moi, ce qui me fascine, effectivement, c'est qu'il y a plusieurs tableaux qui sont de petits formats, ce qu'on appelle des petits formats, des huiles sur papier, mais qui sont fascinants, parce que sur un espace qui peut mesurer 8 pouces par 6 pouces, on a un geste complet qui est, je dirais pas contrôlé, mais qui est très fort. Alors, moi, ça me fascine de voir comment une artiste comme Ferron, très énergique, très pétillante, pouvait arriver et faire ce geste-là fort, mais le contrôler en même temps pour qu'il soit sur la feuille là, bien disposé.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, on parle des huiles sur papier, mais elle expérimente aussi, elle expérimentait, j'aurais parlé au passé. Il y a une œuvre qui m'a particulièrement marquée, c'est un sans-titre sur papier photo.
Oui.
Donc, il y a
oui.
vraiment des œuvres avec des factures qui sont quand même assez différentes, qui témoignent peut-être pas d'expérimentation, mais d'ouverture à différents.
Je ne sais pas si. Je ne peux pas répondre pour Marcel Ferron, mais en même temps, ce qu'on sait, c'est que Marcel Ferron pouvait peindre sur à peu près tout ce qu'elle trouvait.
Ben ouais.
Alors, est-ce que cette journée-là, elle a trouvé du papier photographique ou il y a même une autre œuvre qui est sur une feuille de papier sur laquelle il y a du texte? Il y en a d'autres, des fois, sur des images. Alors, est-ce que c'est qu'elle voulait expérimenter ou encore elle peignait sur ce qu'elle trouvait ce jour-là parce qu'elle manquait de papier?
Mais dans tous les cas, ça témoigne vraiment d'une ferveur, puis d'une ouverture, vivacité.
Oui, puis d'une ouverture, puis d'un goût de peintre.
Ben
quelque
ouais.
part, qui est très profond.
Un besoin, même, j'imagine, à la limite, là, si on prend la feuille de papier sur laquelle il y a du texte à l'endo, il faut que ça se fasse ici, maintenant. Là,
un besoin, parce qu'elle a peint jusqu'à 6 mois avant sa mort. Alors, c'est probablement très relié là, à l'essence de sa vie.
D'ailleurs, je vais peut-être revenir un peu au papier. Vous disiez que ça n'a jamais été présenté. Je pense qu'il y avait une raison aussi pourquoi ce n'était pas présenté. Bien, c'est un peu plus intime.
C'est ça. Pour Marcel Ferron, ces papiers, elle les qualifiait de musique de chambre, mais au sens d'une œuvre qui est plus intime, qui est plus complexe, qui est plus personnelle. Alors, elle les gardait dans un endroit, tous ces papiers, et elle en a très peu laissé aller ou présenté de son vivant. C'est plus après que cette œuvre-là a été mise en valeur.
D'ailleurs, vous avez travaillé avec les filles de Marcel Ferron là-dessus. J'imagine que des fois, ça devait être un peu... Est-ce que c'était un peu touchant pour elles de sortir ces papiers-là, justement, qui n'ont jamais été présentés? Est-ce que...
Bien, je pense qu'ils apprécient aussi le fait qu'ils soient montrés, qu'ils soient mis en valeur à leur juste valeur. Je pense que c'est plus cet aspect-là qui est privé dans la démarche. On invite à voir l'exposition qui se déroule jusqu'au 16 octobre au 273 rue Saint-Paul. C'est en biais avec l'édifice TELUS, soit entre la gare du Palais et le marché du Vieux-Port.
Michel Guimond, je vous remercie. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Catherine Boivin.
Tous les jours de la semaine, de 13h30 à 15h30, le CERF vous présente l'émission Nouveau Cru sur les ondes de CKRL. À ne pas manquer en septembre, Human et Mathématiques le 22, We Are Enfants Terribles le 23, Machine Gun Suzy le 24 et dans le cadre d'Envoler Macadam, The Dead Set le 29 et Mariem le 30. 228 Saint-Joseph-Est, 88-988-8648, le trait d'union cercle.ca.
Du 28 septembre au 1er octobre, le Festival de la chanson francophone Limoilou m'enchante présente 4 soirées uniques avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Robert Charlebois, le 28 septembre, Philippe Noirot, Jessica Vigneault, Annie Poulain, le 29 septembre, Michel Buller, Bruno Brel, le 30 septembre et Mariem, le 1er octobre, seront au rendez-vous.
Les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand
à noter que les spectacles du 29 septembre, hommage à Sylvain Leguèvre et celui de Marie-Yam le 1er octobre, sont présentés gratuitement. Tous les spectacles ont lieu à 20h à la salle Sylvain Leguèvre du Cégep Limoilou. Du 28 septembre au 1er octobre, la grande chanson, c'est à Limoilou. Billets en vente sur le réseau Billettech.
Moi aussi, j'aurais quelqu'un qui m'aime.
Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Jumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts.
Try it now.
Elle est douce et coule bien en bouche. Une explosion d'agrumes qui me monte au cerveau. Elle vient seulement en grand format. Elle me donne des frissons. Avec elle, je deviens chaude.
La nouvelle bière, la CKRL. Une autre façon de déguster votre radio préférée, le 89.1. Cette bière des maîtres brasseurs de la Barberie est seulement disponible à l'accommodation GD, 500 3e avenue.
Mais vous pouvez aussi la déguster au bar Le Sacrilège et au bal du Lézard.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418 529 3829.
De retour à l'aérospatiale pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Julie Gagné toujours avec vous à l'animation, Jacques Gignac à la mise en onde et on est rejoint par une nouvelle collaboratrice, la flamboyante Catherine Boivin. Bonjour Catherine.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Très bien, merci de m'inviter comme chroniqueur à ton émission.
T'es pas trop nerveuse pour la première chronique?
Ah, un petit papillon là, comme il se doit.
Ça veut dire que t'as déjà fait de la radio quand même à CKRL il y a un certain temps.
Oui, quand même. J'ai collaboré comme productrice, généralement davantage pour commenter la musique, mais moins les arts. Alors, c'est un peu une première.
Une première incursion dans le domaine. D'ailleurs, cette semaine, tu nous parles de l'art, de l'interactivité, de l'histoire de l'art. C'est une chronique multiforme.
Oui, en fait, à la fermeture des musées, hein, le fait que les lundis, entre autres, les musées sont fermés, en fait, je me disais, moi, je voulais essayer d'aller voir l'offre hein, sur Internet, de l'univers artistique, mais plus particulièrement avec l'angle de l'histoire de l'art. C'est vaste, c'est infini. Et, enfin, moi, je me suis intéressée davantage à l'idée de l'histoire de l'art et comment les gens s'approprient l'histoire de l'art pour le rendre interactif. Donc, je vais vous parler, en fait, de trois sites d'intérêt là, que j'ai envie de partager avec vous, qui partent dans des propositions différentes.
Alors, le premier, qu'est-ce que c'est?
Voilà. Alors, c'est d'une simplicité. Alors, il s'appelle tout simplement, mon site, jacksonpollock.org. Alors, vous pouvez facilement vous en rappeler. Si vous allez sur le site Jackson Pollock, tout de suite, vous allez vous rendre compte que vous êtes sur une interface dans l'interactivité. Déjà, votre écran devient blanc et dès que vous bougez votre souris, eh bien, vous vous mettez à créer un Jackson Pollock instantanément. C'est-à-dire que vous êtes dans le dripping, la dégoulinure là, typique du peintre américain Jackson Pollock, très célèbre pour nous avoir donné ses immenses canevas remplis de dégoulinures dans son style expressionnisme abstrait.
Puis est-ce qu'on a le choix de faire de la dégoulinure, de faire plus des traits ou c'est vraiment contrôlé par le site Internet?
Non, c'est très aléatoire. Et si on ne bouge pas la souris, on fait une grosse tache. Hein, vraiment, ça fait un gros rond. Et si on clique sur notre souris, là, on change la couleur. Alors, l'idée, c'est d'être toujours en mouvement et de jouer avec les couleurs. Et on arrête. Quand on arrête, là, il y a moyen de cliquer pour arrêter le tout. Si on est satisfait, on peut la conserver, l'imprimer, et voilà, ou tout simplement recommencer le plaisir. L'effet est assez immédiat. Hein? Je veux dire, l'interactivité, elle est directe. On pourrait dire, d'une certaine manière, en fait, ça correspond bien au côté aléatoire de l'œuvre de Pollock aussi. Et puis, l'exercice est bien pour bien comprendre, hein, je dirais, un peu le geste, le coloré. Je dirais que c'est efficace, c'est instantané. Et puis, bon, ben, un coup qu'on a vu le truc, on peut s'en départir très rapidement. Mais je me suis demandé à savoir, bon, qui avait fait ce site. Alors, c'est un Italien du nom de Miltos Manetas. Alors, son nom apparaît vraiment quand on clique jacksonpollock.org et il a eu un prix. Il a gagné un prix pour cette interface. Alors, c'est un site web, mais c'est aussi une application pour les apps, pour les iPhone, iPad de ce monde. Et d'ailleurs, Steve Jobs en aura dit du très bien. Il va dire que c'est excellent vraiment pour faire l'essai du iPad. Alors, quand c'est sorti, je crois que c'est en 2008 ce site. Vous l'avez peut-être déjà vu passer. Alors, il a été publicisé par Steve Jobs lui-même, donc ça a fait le tour assez rapidement.
Est-ce qu'il y a autre chose sur le site? Est-ce qu'on peut se renseigner?
Non, c'est vraiment oui, exactement. Et donc, on peut aller s'informer sur Miltos Manetas. Alors, c'est quelqu'un qui travaille justement dans l'univers de l'art. C'est un créateur, mais un créateur multimédia web. Alors, j'en dirai pas plus sur le créateur, c'était pas le but de mon événement, mais justement, moi, je me disais face à à ce site. Est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Est-ce que c'est vraiment comme une curiosité? Puis quand j'ai vu qu'il avait gagné un prix, je me suis intéressée au type de prix qu'il avait gagné pour savoir si c'était sérieux. Et là, j'ai découvert un autre site intéressant pour faire la découverte justement de différentes applications, de sites web, de vidéos interactives ou en fait de vidéos de cours sur l'histoire de l'art. Okay. Et j'ai nommé donc le site des prix du les Webby Awards, Webby pour web.
Avec un grec,
deux B, un Y. Donc, et c'est donc, c'est comme une académie internationale des arts digitales et de la science. C'est comme ça qu'ils se présentent. Ils discernent des prix à chaque année depuis 15 ans. Des prix sur l'univers interactif multimédia, donc des sites web, mais aussi des applications. Alors, ils ont beaucoup, beaucoup de catégories. Et ils ont, entre autres, la catégorie art. Et donc là, moi, je vous donne le site pour aller explorer. Je me suis amusée à dessiner des monstres avec les personnages, ou en fait, les monstres de Léonard de Vinci, faire des hybrides sur un site de Léonard de Vinci. J'ai découvert des films sur l'art. On pourrait en nommer plusieurs qui ont été soit en nomination ou soit qui ont gagné des prix. Alors, on peut partir à la découverte en cliquant sur les différentes années où on a discerné les prix. Et on a un gage de qualité.
Ben ouais.
C'est un peu la source, donc. Et peut-être vous dire un petit mot aussi sur qui décerne ces prix. Alors, d'une part,
C'est le jury, là, quand même, il faut se questionner.
Exactement, il y a un jury. Ils ont toujours, pour chaque catégorie, ils émettent toujours deux prix. Un prix du jury et un prix du public. Donc, on peut aller voter et donner, donc, parmi les nominés. Parce qu'il faut quand même un premier tri. Et de ce jury, on peut retrouver des gens quand même de tous les milieux. Ce sont des professionnels qui viennent pas simplement de l'univers multimédia, mais on voit des musiciens, entre autres Beck, David Bowie, sont associés, sont sur ce jury. Il y a l'inventeur d'Internet, Vint Cerf, le fondateur de Twitter, Biz Stone, et le créateur des Simpsons, Matt Groening.
Ah ouais, alors, c'est assez...
Oui, c'est...
Ça va dans pas mal de directions.
Oui. Mais oui, comme ils doivent discerner des prix aussi dans différentes catégories, il y avait même des catégories pour les applications, mais il y avait une catégorie pour la pub, la beauté. Enfin, ça ratisse très large, mais une mine d'or, donc, pour trouver des sites d'intérêt. Je commence à l'explorer, alors je vous invite à continuer à l'explorer. Je
les Webby Awards, hein?
Oui, puis on pourra donner les...
Oui, on va donner les liens sur le site de l'aérospatial. Je répète l'adresse si vous voulez la noter pour aller voir les liens, l'aérospatial.wordpress.com. Tu avais un autre site, Catherine, je pense, à nous présenter.
Oui, alors là, c'est une découverte. Ça nous amène au Danemark. Il s'agit d'un blogueur, en fait, je ne peux pas déterminer si c'est un homme ou une femme, mais je crois que du nom de la personne, Pepin Barr.
Oui, j'avoue qu'ici, c'est un peu plus ambigu. Là.
Oui, mais je crois que c'est dit que c'est un guy qui est à Copenhague. En fait, c'est un blogueur, c'est un chroniqueur, mais c'est aussi un universitaire qui travaille présentement, qui a un doctorat dans le jeu vidéo et surtout, je dirais plus la philosophie du jeu vidéo, puisqu'il se questionne sur les valeurs véhiculées est transmise par les jeux vidéo, soit de façon implicite ou explicite. Alors, il y a une démarche quand même assez philosophique du jeu vidéo. Et je suis tombée sur son site, enfin, parce que il est en lien, il a fait un jeu vidéo lui-même et créateur d'animations. C'est des animations qu'on pourrait nommer d'une grande simplicité. On parle d'un style très pixelisé, là, si tu peux voir.
On dirait quasiment des dessins faits avec l'outil Paint ou des vieux jeux.
Oui, exactement. On parle, c'est vraiment l'esthétique Commodore 64, on voit bien les pixels. Les pixels sont carrés, puis couleurs de base. Donc, on est très, très loin de la haute définition. Donc, c'est un site intéressant. Donc, il y a un blog, il y a des discussions, mais il y a aussi des jeux interactifs. Et le jeu dont je veux vous parler, c'est un jeu qui est inspiré d'une exposition artistique qui a eu lieu à New York, au Musée d'art moderne en 2010. Il s'agissait de « The Artist is Present », qui faisait une rétrospective sur la carrière de l'artiste Marina Abramović, reconnue pour la performance.
Ben oui.
C'est depuis 40 ans qu'elle fait de la performance et qu'elle de la performance solo ou en équipe. Là, elle avait un coéquipier.
Il y avait elle-même était là, mais il y avait aussi des gens qui reproduisaient ses performances directement au moment.
C'était une grande première de faire, oui, de remettre la performance en salle, ben de les revivre.
Ben oui.
Et comme elle est bel et bien vivante, toujours vivante parmi nous, Marina a développé sa plus longue performance à vie dans la durée, parce qu'elle est reconnue pour avoir fait des choses vraiment sur la durée, puis qui impliquaient, je dirais, beaucoup de patience et beaucoup de contrôle de son corps, parce qu'elle a fait des choses très, très difficiles. Mais donc, dans cette performance au musée, elle était assise et elle invitait les visiteurs à prendre place devant elle sur une chaise et de rester silencieusement devant elle le temps qu'on est capable, le temps que l'on veut. Enfin, c'est cette idée que tant qu'être dans l'autoportrait ou de pouvoir, en fait, on regarde vivre l'artiste, mais c'est toujours dans un contexte de silence, quasiment de recueillement, c'est de la contemplation pure. Et on peut, enfin, le site du MoMA a même fait une vidéo sur les gens qui ont eu la chance d'aller s'asseoir et on nous dit qui ils sont, pas tellement leur nom, mais combien de temps ils sont restés. Et parfois, c'est une minute, parfois, d'autres, c'est huit. Et...
Mais ça confronte, en fait, faire une chose comme ça, là, d'être capable de regarder un inconnu dans les yeux, puis de faire du temps avec cette personne-là aussi. Là.
Oui, c'est quand même extraordinaire. Puis donc, tout le temps, donc de mars à mai, qu'avait lieu l'exposition sur Marina Abramović, eh bien, elle a participé à cette expo-là. Et donc, à tous les jours, elle était présente. D'où le titre de l'exposition, « The Artist is Present ».
Ben ouais.
Et donc, je reviens à mon blog et mon artiste. Ici, Pippin Barr, donc, qui s'intéresse à la philosophie des jeux vidéo et tout ça, en produit lui aussi dans sa facture là, très archaïque. Et il a fait carrément, son jeu s'appelle « The Artist is Present ». Et donc, si on veut jouer, on va sur le site et on va dans « Games », c'est son tout dernier né. On devient un spectateur, un visiteur du MoMA. Alors, on rentre, on doit faire l'action d'ouvrir la porte du musée, aller acheter son billet, vraiment passer par les bons endroits, parce que si on ne passe pas par les bons, on nous dit non. Puis là, il ne faut pas le faire. C'est extrêmement minimaliste, comme une expérience virtuelle d'une visite au musée. Et là, on doit donner notre billet au gardien. Et là, il nous laisse rentrer. Et lorsqu'on traverse une salle, on voit qu'il y a des œuvres sur les murs et on doit cliquer sur le cartel. Et là, on voit, par exemple, Stormy Night de Vincent Van Gogh. C'est écrit en anglais puisqu'on est au MoMA.
Ben ouais.
Donc là, on peut soit prendre le temps de regarder des Van Gogh en pixel. Oui, c'est ça. Et là, finalement, on est confronté. Là, on nous dit l'exposition temporaire qu'on veut voir, donc, elle est vers la droite. Alors, on se dirige vers la droite. Puis là, on est confronté à une file. Alors là, on fait la file. Et c'est exactement le jeu, alors, et ça avance à une vitesse lente. Okay. Et là, si vous essayez de passer la file, parce que vous vous dites, bon, ben là, ça va faire, vous traversez, vous avancez vis-à-vis la dizaine de personnes devant vous, et vous voyez une petite Abramović pixelisée qui est assise et qui reçoit ses visiteurs, puis on vous dit non, tout de même pas, vous voudriez sûrement pas faire cet affront aux visiteurs, reprenez votre place. Mais là, le temps que vous revenez, il y a d'autres visiteurs. Et donc, Pippin Barr nous a dit que cette question, en fait, c'est extraordinairement, ça va tout à fait dans l'esprit de l'expo, du travail, de la performance.
C'est un anti-jeu vidéo aussi.
C'est un peu un anti-jeu vidéo. Elle dit elle-même qu'elle a passé 5 heures à attendre, d'être très fébrile, de voir que sa file avançait. Elle a eu le temps de faire plein de choses, mais qu'elle revenait toujours voir. Okay. Moi, je me suis rendue jusqu'à me mettre en file puis essayer de passer la file, puis j'ai craqué, j'ai arrêté.
Ah ouais?
J'avais d'autres choses à faire, mais... peut-être que je la referai. Mais donc, allez voir son site. Il y a d'autres. On peut se prendre pour Dieu et décider si les pêcheurs, on les zappe ou on les pardonne. Ou on peut, si on est tanné, créer une inondation, comme à l'époque de Noé.
Ah ouais.
Où il y a aussi un jeu vidéo où c'est un avion. Il faut comment survivre à des accidents d'avion. Mais tout ça dans un mode très archaïque. Alors oui, Video Art dans ce cas-là.
Bien, Catherine Boivin, merci beaucoup. On mettra les liens sur le site de l'émission. De notre côté, on s'en va en pause audio. On écoute Manuel Rochard et Turbide avec Semi No Koe.
Au revoir. Thank you.
vient d'entendre une pièce de l'album électroacoustique Mexico 1960-2007. D'ailleurs, Simon Roy va rendre disponible sur le site web de l'aérospatiale.wordpress.com les informations relativement à cet album, cette chronique qu'il nous avait gentiment offerte, mais qui n'a pas été en mesure de nous rendre en direct. Parlant de chronique, en fait, j'accueille aujourd'hui une future chroniqueuse, ben, une chroniqueuse de l'émission qui fera sa première chronique la semaine prochaine, mais qui est aussi artiste en art visuel, Fanny Hénon-Lévy. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va bien, merci.
Tu viens aujourd'hui à titre d'invité pour nous présenter ton exposition Au bout du fil que tu vas présenter au Cercle. Peux-tu nous en parler un peu?
Ben oui, certainement. Au bout du fil, c'est une exposition de 150 dessins qui vont être suspendus dans l'espace, ils appellent ça l'espace aquarium, qui est un espace un peu intermédiaire. C'est exactement, c'est un espace qui est intéressant dans le sens où il est très haut sous plafond, puis on a vraiment un bel espace pour suspendre les dessins. C'est un projet qui s'est monté, que j'ai porté pendant 6 mois. Ça fait 6 mois que je...
150 dessins, c'est beaucoup, là.
Ben, puis c'est des dessins qui ont été créés pour soutenir un collectif de femmes, le collectif des accompagnantes à Québec. 25% du montant du prix des œuvres sera reversé au collectif. Donc c'est un projet qui est engagé et qui est engagé concrètement. Parce que mon travail a toujours été engagé, mais là, il me fallait faire quelque chose de marquer une pierre, là, faire quelque chose de concret.
Tu as choisi le collectif des accompagnantes. Peux-tu nous en parler un peu?
Mais le collectif des accompagnantes, ça a été une rencontre qui s'est faite très simplement. Je ne vais pas retracer toute l'histoire de la rencontre, parce que ça serait un peu long là d'en parler, mais c'est un collectif qui fête ses 30 ans cette année. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'a vraiment interpellée avec ce collectif, c'est leur ouverture sur toutes les femmes. Donc évidemment, c'est un accompagnement à l'accouchement, en dehors de la médicalisation et du système médical habituel.
Vers les sages-femmes. Finalement.
Exactement. Et qui favorise le contact avec ces femmes, le contact avec la famille, qui a une grande écoute avec ces femmes-là. Et mon travail a toujours été porté... tend de plus en plus à aller vers les femmes et je voulais absolument aider un collectif de femmes, puis la rencontre était formidable, c'est comme ça que ça s'est monté.
Donc j'imagine les œuvres, est-ce que c'est des œuvres qui s'inscrivent un peu dans le cadre de l'intimité? Quel type de dessin on peut voir?
Il y a beaucoup de dessins différents, vu qu'il y en a 150, il n'y a rien de systématique dans ma façon de travailler. C'est-à-dire que je travaille autour d'un thème unique, qui est le thème de la femme. C'est le thème récurrent. Après, la femme, elle va être... le thème est complètement explosé. Dans le fond, c'est pas un thème qui tourne autour de la maternité, pas du tout. C'est vraiment un thème beaucoup plus générique. Le féminin, le genre, l'identité, ça pose toutes ces problématiques-là.
D'ailleurs, si j'en reviens, en fait, parce que tu dis les dessins vont être suspendus, mais ça se fait de quelle manière? Est-ce que les dessins vont faire comme une sorte de plafond au-dessus des gens qui vont être là?
Exactement. Dans le fond, il y a un tissu, un large tissu qui est déjà au cercle, un tissu noir qui a été tiré au maximum, et puis les œuvres sont suspendues sur le tissu. Les œuvres sont relativement hauts pour que les gens puissent circuler dessous. J'ai choisi ce système d'accrochage parce que ça m'intéressait pas d'avoir un spectateur qui est face à face avec une œuvre, mais un spectateur qui est immergé sous une installation, immergé au sein de ces dessins, au sein de ces femmes, parce que tous ces dessins représentent des femmes, et amené à lever la tête et à être en interaction avec ce féminin. Alors, si on pousse un peu plus loin, chaque femme, chaque livre, chaque dessin représente un jupon. Donc, dans le fond, le spectateur se retrouve malgré lui
comme soulageur pour la culpité,
comme voyeur. Il est malgré lui pris au piège et dévoré par son désir de voir. Donc, c'est bon. En tout cas, je joue beaucoup sur cette notion-là.
D'ailleurs, bon, il y a le désir de voir, mais les dessins sont à vendre. Je crois que tu disais la mise minimale, c'est 20 $. Donc, la personne est invitée à couper le fil. Quelqu'un qui veut un dessin coupe le fil.
C'est ça. Il y a aussi quelque chose d'assez symbolique qui est lié évidemment à la naissance, au cordon ombilical, mais aussi ça va aller chercher toute l'histoire des femmes dans le sens où la violence faite aux femmes, le vécu intime que chaque femme peut avoir, le spectateur en coupant ce fil, soit va sauver sa femme, soit va l'emporter. En tout cas, va faire que l'histoire de cette femme-là continue. Et elle continue vers un avenir incertain, dans le fond.
Et là, j'ai une question, Fanny, c'est vraiment d'ordre pragmatique. Mais mettons que moi, j'y vais, je décide d'acheter un dessin. Bon, la mise minimum, elle est de 20 $. À qui je donne ces 20 $-là physiquement? Au serveur qui est là?
Alors, ça va être pas mal bien fait. Il y a deux grands panneaux qui expliquent ça.
Okay.
Il
n'y
a pas de serveur qui s'occupe de ça. Il y a une boîte, des panneaux qui expliquent ça très ludiquement.
Mais ouais.
Une petite boîte, on met les sous dans la boîte et ça... Tout ce rapport-là repose sur la confiance.
Ah ouais, c'est ça.
Il y a une confiance qui est faite aux gens. Les dessins sont là. Il y a eu beaucoup de travail sur les dessins, mais j'ai totalement confiance en... Voilà, je pense que si on veut faire avancer la société, là, il y a des choses. Nous, les artistes, on est là aussi pour aller secouer certaines choses. On n'est pas en train de vendre des patates. On n'est pas avec des systèmes de caméras. On n'est pas là pour les surveiller. Si quelqu'un a envie de partir avec un dessin, c'est sa responsabilité.
Mais ouais.
C'est sûr que ce serait plate pour moi aussi, mais je pense que. Voilà.
On fait appel à des adultes doués de faculté de raisonnement. Justement, le fait, bon, parce que le vernissage a lieu demain soir à 17 h, ça se peut que dès demain à 17 h 30, par exemple, il y a des gens qui commencent à acheter des dessins. Donc, j'imagine que ça va être intéressant pour toi aussi de voir le caractère évolutif de cette exposition-là, qui sera jamais la même à chaque jour.
C'est le but. Les dessins seront tous retransmis sur l'écran géant du cercle. Donc, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de disparitions, donc on pourra continuer à voir les dessins qui ont été exposés sur le grand écran. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir ces femmes disparaître peu à peu et de voir l'évolution de leur histoire qui, ça avance, là, ça continue. Et puis ça tourne. Puis c'était précisément ça qui m'intéressait dans le fait que les spectateurs coupent leur fil puis partent avec leur œuvre. On n'est pas dans quelque chose de didactique, le spectateur agit avec l'installation.
On est vraiment dans le cadre de l'intimité globalement, là, aussi la relation du spectateur qui devient personnelle avec les œuvres.
Totalement.
Parlant d'intimité, justement, moi, c'est un terme des fois que j'accole un peu au dessin, hein, parce que le dessin, souvent, bon, dans l'histoire, ça a toujours été l'esquisse, ça a toujours été l'étude préparatoire, l'expérimentation. Aujourd'hui, le dessin reprend ses lettres de noblesse, devient un médium à part entière. Qu'est-ce qui t'y a amené, toi, Fanny?
Disons que je suis passée par beaucoup de médiums. J'ai essayé, quand on est en études d'art visuel, là, on essaie la photographie, on essaie. Et de façon assez naturelle, je suis revenue au dessin. Et moi, ce qui me plaît dans le dessin, c'est ce trait, cette espèce de trait indélébile qui va se placer comme une écriture.
C'est le mouvement qui se transforme en écriture.
Disons que il y a quelque chose de très spontané dans le dessin qu'on va pas retravailler. Je travaille à l'encre, donc c'est important de dire que ces dessins-là, ils seront à l'encre, au graphite et parfois relevés un peu d'aquarelle, mais vraiment très peu. Là, l'aquarelle, c'est vraiment pour une unité dans l'installation, mais l'essentiel de mon dessin est à l'encre. Donc l'encre, le trait d'encre, il vient vraiment se placer comme quand on est en train d'écrire sur une page blanche. Donc il y a vraiment une idée. On part, on rentre dedans avec tout son lot de hasard, tout son lot de brut. Et c'est ça qui me plaît dans le dessin. C'est vraiment le côté brut et la puissance de la spontanéité du geste.
D'ailleurs, tu parles justement, ça te plaît le côté brut. Je regardais un peu ton site internet. Tu disais que tu aimais les lignes franches.
Ben, mes lignes sont franches. De la même manière que mon idée, je ne travaille jamais si mon idée n'est pas claire. Je ne pars jamais si je n'ai pas déjà mon dessin qui est conçu dans ma tête. Alors après, évidemment qu'on se laisse surprendre par un trait qui va aller... Bon, mais c'est ça la création aussi. J'apprendrai à personne qu'on part avec une idée, puis ça dévie, puis c'est ça qui est fort aussi dans la création. Mais oui, la ligne est franche.
D'ailleurs, les gens vont avoir, d'ailleurs, il n'y a pas de relation de cause à effet, ça s'est fait dans ma tête. En fin de semaine, c'est les Journées de la culture et tu te représentes au Cercle les 30 septembre, 1er et 2 octobre. Qu'est-ce que tu vas proposer?
Mais je propose rien de spécial, je propose dans le fond un contact avec les gens. Ce qui m'intéresse, c'est d'une part les voir, les voir regarder, et puis être disponible pour répondre à leurs questions. Je donne pas de clés, c'est-à-dire que ça m'intéresse pas d'expliquer un dessin, parce que on a tous une interprétation différente, puis il faut laisser ça vivre en chacun. Mais on peut parler de l'installation, on peut parler de la suspension, on peut parler de,
ouais,
de bon, ben évidemment il y a c'est tout un fruit de
et choses à dire. À compter de demain aussi sur ton site internet, on peut se remettre tes dessins, je pense, à chaque jour, à chaque semaine.
C'est à chaque semaine. Ben j'ai triché un peu là, j'en ai mis aujourd'hui, sachant que demain on a une grosse journée, puis que j'avais certainement pas le temps d'en mettre. Mais oui, je voulais les rendre accessibles, ces dessins-là, parce que c'est voilà.
Alors le site, c'est factar.wordpress.com, factar, F-A-K-T-A-R-T. Fanny et non Lévy, on te retrouve demain à 17h au Cercle pour
avec
le vernissage. Puis on se retrouve aussi également la semaine prochaine pour ta première chronique à l'aérospatiale.
Oui.
Donc, merci beaucoup.
Merci à toi.
On s'en va en pause audio. On écoute Guillermo Acevedo avec la pièce Punta de Partida. Spatial tire déjà à sa fin. 6h25 à votre terminer. J'ai envie de faire le calendrier parce que, bon, on l'a vu, là, ça bouge pas mal cette semaine. Demain, le vernissage de Fanny Non-Lévy au Cercle à 17h. Jeudi, à 17h, à l'atelier de sérigraphie d'Engramme, une rencontre et conférence avec l'artiste Sarah Henry. Vendredi prochain, à 17h, c'est le vernissage de l'exposition Gaspésie Humanless, partie 1 de Guillaume Dessir et Yana Wallet à l'établi. D'ailleurs, la semaine prochaine, on aura l'occasion de discuter avec Yana Wallet. En fin de semaine, ce sont les Journées de la culture, donc toute une série d'événements dans la capitale. Vous pouvez trouver les informations sur le site journeesdelaculture.qc.ca, mais notamment, il y a la Galerie de Sarah qui nous offre, en fait, un atelier de création de cartes postales, des œuvres collages que la Galerie renverra aux créateurs. Donc, ça s'appelle Renvoi aux créateurs. C'est du 30 septembre au 2 octobre, entre midi et 17h. Également, le 1er octobre de 14 à 17 heures à l'œil de poisson, une visite commentée de l'exposition La Joconde avec Pascal Gingras et François Simard. Une indication dernière semaine pour voir l'excellente exposition de Jean-Marc Mathieu Lajoie, Mater Dolorosa, qui est présentée au lieu. On l'a reçu en entrevue il y a quelques semaines, donc vous avez jusqu'au 2 octobre pour visiter son exposition. Je remercie les invités de l'émission d'aujourd'hui. Je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Et je vous laisse entre très bonnes mains avec Émilie Guy qui remplace Gilles Chaumel à l'émission Folk d'Amérique. Alors, bonne soirée à vous sur les ondes de CKRL.